à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut.
Salut Guillaume.
Bonne année.
Ben merci, bonne santé. Hein.
En 2021. Donc voilà.
Ça commence bien.
Ça commence très très mal. Oui, on est là pour vous parler des films du coup qui vont faire la une en 2021. Les films dont on va parler cette année-ci, dont on vous a déjà d'ailleurs un peu parlé. On va peut-être commencer par cela avant de passer en revue les plus attendus, les grands réalisateurs, les films d'auteur, les films de genre. Bref, un peu toutes les différentes catégories du cinéma qu'on va essayer de condenser ici ensemble pendant une bonne demi-heure à mon avis.
Tout à fait. Oui.
Une
bonne demi-heure.
À mon avis, il y a pas mal de sujets à couvrir. Mais comme je disais, commençons par des films qu'on a déjà vus et dont les critiques sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube ou sur les plateformes de streaming.
Ouais, mais je vais pas m'éterniser sur chacun de ces films. Mais on va commencer par Mandibule de Quentin Dupieux, évidemment, que j'ai déjà eu l'occasion de voir deux fois en plus.
Oui.
C'est pas bien. Mais c'est comme ça. Mais c'était très bien et c'était toujours aussi bien la deuxième fois. J'ai un peu moins ri. Mais j'avais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ri la première fois. Donc, même rire un peu moins, tu ris quand même beaucoup. Mmh. La deuxième, donc vraiment grand, grand film avec, le duo du Palma Show.
Exact.
Bref, ça devrait sortir le plus vite possible, vu que c'était censé sortir maintenant, mi-décembre. Donc, espérons que ça sorte très bientôt. Parlons aussi de Mainstream, de Giacoppola avec Andrew Garfield, que j'ai eu l'occasion de voir aussi à Venise. Toujours pas de date de sortie annoncée, mais bon, son premier film Palo Alto avait quand même pas mal fait parler d'elle. Donc voilà, ici un film avec Andrew Garfield, je pense que ça devrait trouver le chemin des salles
facilement.
Sans trop de problèmes, normalement. On verra bien. Ensuite, Pieces of a Woman, et là j'en parle alors que ça va sortir là dans quelques jours. C'est Netflix qui l'a acheté un peu après Venise. Ouais. Enfin, pendant Venise, film pour lequel Vanessa Kirby a eu le prix de la meilleure actrice. Et le film sort là maintenant le 7 janvier sur Netflix. Donc vous allez pouvoir le voir très rapidement. Et c'est un très grand film avec un magnifique plan séquence assez incroyable. Je ne vous en dis pas plus. Bref, vous pouvez aller lire la critique comme... écouter
oui.
La critique comme celle de Mandibule, de Mainstream et de Nomadland dont je vais parler maintenant. Dans la description. Voilà.
Merci.
Et Nomadland, Lion d'or à Venise avec Frances McDormand, film de Chloé Zhao, absolument incroyable. Vous pouvez aussi écouter cette critique là où vous voulez.
Là où vous voulez. Il y a d'autres films aussi qu'on a vus, mais par contre, on n'a pas encore eu l'occasion de faire la critique. Je pense notamment à Quiet Place 2. La suite de A Quiet Place, sans un bruit.
Le film devait sortir au mois de mars de cette année.
Oui.
Donc c'est un des derniers films que j'ai vu avant le confinement.
À la limite, il y avait encore des posters dans la rue quand il y a eu le confinement. Quoi.
Ouais.
C'était plus ou moins
ouais,
ça.
Ouais. Oui. Donc du coup, j'ai vu le film quasiment un an avant le moment où il sortira. Je sais même plus s'il y a un embargo, mais au final, les gens, ils verront pas.
C'est important.
Mais je vous dis que c'est bien. Et il faudra aller voir A Quiet Place 2, parce que c'est une très bonne suite.
D'accord, il y avait les Croods 2, mais ça c'était...
Les Croods 2, ça sera pour début janvier, fin janvier, pardon. C'est un peu moins bien, mais il y a de très bonnes choses dedans, on en parlera au moment de la sortie.
Il y a encore d'autres films là-dedans dans la liste, Thibaut ?
Il y a Aline, qui est un film sur la vie de Céline Dion, par et avec Valérie Le Mercier. C'est exceptionnel, c'est très bizarre, surtout qu'au début, quand elle est toute petite, en fait, ils ont fait un deepfake, ils ont été mettre le visage de Valérie Le Mercier sur le corps d'une fille de 12 ans, tu vois. Ça fait très bizarre. Hein. Mais donc, voilà, t'as vraiment toute la vie de Céline Dion, sauf qu'ici, elle s'appelle Aline Dieu. Visiblement, ils n'ont pas eu d'accord avec Céline Dion. Et c'est vraiment un biopic complètement assumé, avec René, tout le bazar, sauf qu'ils ont tous des noms différents, quoi. Mais franchement, c'est très particulier, mais c'est super bien, voilà.
Bah écoute, Valérie Merci, bien, c'est deux mots que je ne m'attendais pas à avoir ensemble.
Bah écoute, non, moi non plus, mais voilà, comme quoi.
On enchaîne après avec des films qui vont se retrouver aux Oscars cette année.
Bah oui, deux films qui... Enfin, tu vois, d'habitude, les films des Oscars, on en entend déjà quand même beaucoup parler.
En décembre, oui.
Dès décembre, voire un peu avant, parce que ce sont des films qui sont déjà sortis à ce moment-là aux États-Unis et qui sortent globalement assez vite chez nous aussi. Et ici, j'ai décidé de parler de deux films qui, je pense, on va moins parler d'eux, qui sont The Father de Florian Zeller avec Anthony Hopkins, qui devrait rafler plein de prix.
Oui, ça, avec Anthony Hopkins déjà, pour commencer.
avec Olivia Colman aussi. Donc vraiment un super duo. C'est assez prometteur. Et c'était passé à Sundance en janvier dernier. Et voilà, je pense que c'est un des films qui va être clairement dans les favoris aux Oscars. Et le deuxième, c'est Minari de Lee Isaac Chung, réalisateur sud-coréen, ou enfin américain, mais d'origine sud-coréenne, avec Steven Yeun. Ça te rappelle des souvenirs,
ça me rappelle des souvenirs, Steven.
Qui fait aussi partie un peu de ses favoris, de ses films. Tu vois, en général, dans la liste des 5 films pour le meilleur film, tu as clairement entendu parler de 3 de ces films-là, ouais. Et tu en as toujours 2, tu sais pas trop. Voilà. Et ben, je pense que les 2, tu sais pas trop ce qu'ils foutent là parce que tu en as pas entendu parler ici, en Belgique ou en France. Ce sont ces 2-là, c'est The Father et Minari. On va clairement les retrouver en avril prochain, je pense, ouais. Pour les Oscars. C'est bizarre de dire ça.
C'est un peu plus tard que prévu, exactement. Ouais. On enchaîne avec les films français, les gros films français. Là, c'est du gros quittage. T'as pas mis les Tuches dedans, je suis un peu déçu.
Je me respecte un minimum.
Ils sont pas dans la liste des plus attendus. Il y a 3 films français qui sont vraiment très attendus. Un qui était censé sortir.
4 même.
Même, oui, 4. Oui, c'est vrai, 4. Mais là, je parle des films français qui tâchent. Tu vois la grosse affiche, ouais. Le poster qui fait mal. Comment je suis devenu super-héros. Ça, c'était censé sortir maintenant. Il y a une affiche à Bruxelles, au centre-ville, hein, de ce film-là.
Ah ouais?
Oui, ils n'ont pas, à mon avis, oublié de payer. Ils ont payé la facture, je pense, et donc ils ont laissé le poster.
Ah, j'ai pas vu. Oui. Mais écoute, c'est un film, je n'ai vu que de bons commentaires pour l'instant, que de bons retours dessus.
Un film de super-héros à la française et sérieux, c'est quand même un pari.
Mais c'est surprenant.
Ouais, ouais, ouais.
Du coup, c'est de Douglas Attal qui avait fait. C'est pas lui qui avait fait. Ah non, il jouait dans Radio Star, ouais, je pense. Hein.
Tout à fait.
Écoute, ça m'intrigue et il a un casting assez canon aussi. Hein. Pio, ouais. Marmaille, Benoît Poulvord dans un film de super-héros. Ouais. Ça va être génial. Leila Bekti, Vilma Lapence. Enfin, franchement, le casting est assez sympa. Donc, je suis très curieux de voir ça.
Grosse prise de risque avec ce film-là, puisque c'est rare que le cinéma français investisse dans un film comme ça, un peu barré. OSS 117, Alerte rouge en Afrique noire. Attention, très attendu celui-là, film de Nicolas Bedos.
Ouais,
plus Michel dans ce cas-ci, Azanavicius. Toujours Jean Gabin.
Oui, ça c'est un peu. Ouais, le non-retour de Michel Azanavicius me peine un petit peu.
Il fait couler de l'encre.
Et Nicolas Bedos, je sais pas si c'est le meilleur choix ou le pire. Ça me fait un peu peur. Mais j'aime beaucoup Nicolas Bedos, mais vraiment sa personnalité avec un sujet pareil, ça m'inquiète un peu. Donc je sais pas, on verra. Ça peut être génial comme très raté.
Oui, c'est ça. Donc
je pense qu'il n'y a pas vraiment d'entre deux.
Oui, mais la bande-annonce pour l'instant ou le teaser qu'ils ont sorti ne me plaît pas trop. Donc voilà, on attendra de voir, mais c'est pas encore trop ça. Kaamelott. Attention, Kaamelott.
Premier volet.
Premier volet d'Alexandre Astier qui enfin a pu faire son film et qui a l'air d'être en tout cas assez bien filmé. Hein, quand il a publié déjà sur Twitter des images et tout du film, c'était assez canon. Tu te dis, tiens, c'est Dune ou c'est. Non, c'est Kaamelott.
Écoute, ouais.
C'est presque ça.
Moi je m'en fiche un petit peu de Kaamelott, très honnêtement.
Oui.
Ça me fait rire, mais j'ai pas tout vu de la série. Mais voilà, c'est un film qui clairement est très 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 attendu par plein de gens parce que Alexandre Astier, Dieu sait qu'il a une énorme fanbase.
Oui.
Et donc voilà, il devait sortir cette année. Finalement, ce sera pour l'année prochaine.
L'année prochaine.
Et on verra bien ce que ça va donner. Je suis quand même curieux. Hein, voilà, c'est normal.
Et autre film français qui est attendu.
Un grand retour.
Dont le tournage s'est terminé très récemment, je crois qu'il est presque, ouais, même encore en cours. C'est Big Bug de Jean-Pierre Jeunet.
Exactement.
Avec ça.
Alors, je ne sais pas exactement de quoi il s'agit, mais je sais qu'il va y être question de robots et d'androïdes. Alors, Echo Casting. Et là, tu dis robots et androïdes, Jean-Pierre Jeunet, ok. Et puis, Elsa Zielberstein, et là, t'es... Hein? Quoi? Hein?
Valérie Mercier.
Non. Alban Lenoir, André Dussolier, Isabelle Nanty. Ça peut le faire. Pourquoi pas? Et attention, c'est un film Netflix.
Oui.
De A à Z.
Oui. Ben, pourquoi pas?
Étonnant.
C'est intriguant en tout cas.
De Jean-Pierre Jeunet. Mais bon, Jean-Pierre Jeunet ne fait plus grand chose depuis quelques années. Donc je pense qu'il fait ce qu'il veut faire et il va là où on lui donne le pognon pour le faire. Point.
Et pour rappel, Jeunet, c'est notamment monsieur Amélie Poulain. Hein, pour si vous ne savez pas qui c'est. C'est important de situer.
C'est vrai, c'est vrai.
Hein, tout le monde n'est pas.
C'est vrai qu'on fait toujours des suppositions si
exactement.
Tout le monde sait tout. Mais non, tu as bien fait de le rappeler.
Dans les films d'animation maintenant, il y a 2 films d'animation que tu as souligné, Thibaut, dans cette liste-ci.
Oui, ben ce sont les 2 films Disney et Pixar qui sont Raya et le dernier dragon, donc ça c'est juste Disney. Et Encanto, je pense que c'est celui de Pixar. J'ai pas mis beaucoup de films d'animation dans la liste de cette année parce que honnêtement, j'ai pas vu énormément de choses déjà. Mm-hmm. Mais voilà, on a parlé des Croods 2, il y aura Baby Boss, il y aura d'autres choses, mais de tous ceux dont j'ai vu quelque chose,
attendu.
Clairement, ce sont les deux qui me parlaient le plus. Voilà, un film de Disney en Asie, en Chine visiblement, ça a l'air assez sympa, et puis un Pixar en Colombie. Écoute, ça change.
Ça change.
Moi, ça me botte. Voilà.
C'était bien voyagé, donc avec des films d'animation, pourquoi pas. Et là, on rentre dans la catégorie...
Surtout que, attends, désolé, oui. Petite parenthèse, le Encanto, c'est réalisé par les réalisateurs de Zootopie.
Voilà. D'accord.
C'est pas rien.
Oui, voilà. C'est ce qu'il faut dire, je pense. Et là, on va parler des films qui tachotent, dont on a certainement déjà entendu parler, ou que vous avez déjà vu peut-être des photos de tournage, ou je ne sais quoi, fuiter.
On sort la sulfateuse, là.
On sort la... on pourrait commencer directement par Fast and Furious, mais on va commencer par un autre, c'est Uncharted. Alors là, mesdames et messieurs, film du coup tiré directement de la série de jeux vidéo, hein, principalement PlayStation 3 et un peu de PlayStation 4, créé par Naughty Dog, le studio américain qui est auréolé chaque fois du meilleur jeu de l'année, qui fait des jeux très narratifs, et là c'est un Indiana Jones en quelque sorte, hein, c'est la même chose que ça. Sauf que c'était très bien écrit, mais petit plot twist, ce n'est pas un héros de 45 ans, ce sera Tom Holland qui joue le héros Nathan Drake.
Donc, est-ce voilà. que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour toi ?
Alors,
je connais rien au jeu vidéo. Hein.
Pas de mauvaise chose parce qu'il y a des segments dans le jeu vidéo où on joue en tant que jeune, d'accord. jeune Nathan Drake. Et donc, pourquoi pas explorer la jeunesse du héros mais bon, après, avec Mark Wahlberg dans le rôle secondaire et tout, ça fait un peu peur, quoi. Et puis Ruben Fletcher, bon, Venom, c'était pas non plus un sans faute.
Non.
Donc voilà. Et puis les images du tournage, je suis pas trop convaincu. Il y en a une qui est plutôt bien foutue, mais à mon avis, c'est juste pour le poster. Et donc voilà, je suis un peu dubitatif. Surtout que Tom Holland, je suis pas encore très convaincu. D'un point de vue physique et tout, enfin, d'un point de vue. Spider-Man, il fait ça très très bien, mais même ses autres films, je suis pas encore vraiment tombé sur le charme de Tom Holland
okay.
en tant qu'acteur. Donc on verra ce que ça va donner. J'ai peu d'espoir, pour être très franc. Deuxième film de cette saga des blockbusters, j'ai déjà un peu mentionné, c'est Fast and Furious 9, F9, bah comme ouais. les touches d'ordinateur. Ils vont tous les faire. Par Justin Lin.
Mais bah oui, écoute, il est de retour, il a laissé la barre. Ah oui, est-ce qu'il n'était pas déjà de retour pour le 8 ? Je ne sais plus.
Je pense.
Il avait laissé la barre pour le 7, qui était réalisé par James Wan. Mais le 8, il était peut-être déjà de retour
ouais,
pour le 8.
Je pense.
Ah non. Le 8, c'était le réalisateur de Straight Outta Compton qui l'avait
All
fait.
All right, oui, c'est vrai.
Donc voilà, Justin Lin de retour après le 6. Écoute, ce film est plein de promesses. Il y a quand même John Cena qui est dedans.
Non, mais la question qu'on se pose
pour John Cena.
C'est est-ce que Vin Diesel et Dwayne seront ensemble dans le film ?
Ben Vin, oui. Dwayne, non.
Non, oui, c'est ça. Parce que ouais. contractuellement, ils ne veulent plus.
Oui, je pense que ça se passe pas très bien.
Non, ce sera Hobbs & Shaw pour
Dwayne. En même
temps,
tu sais, c'est quand même les mecs qui ont des contrats où il est mis. Si je prends deux coups dans la gueule, je dois être capable d'en remettre un énorme, tu vois. Si l'adversaire me met à terre. Tu sais, c'est vraiment des détails comme ça dans les contrats.
Ouais,
quoi.
Ça a fuité hein, à l'époque.
C'est des égos de malade quand même. Donc, ouais. Bon...
Donc c'est et puis si vous avez vu Fucking Kassovitz, le documentaire avec Mathieu Kassovitz, vous comprendrez
Vin
que
Diesel,
Vin Diesel voilà. n'est pas l'acteur le plus facile.
Non.
Donc voilà, gros clash d'ego avec Fast and Furious et gros clash de testostérone aussi.
Ouais, mais j'ai putain de hâte de voir ce film.
Voilà. Oulala, il y a deux films avec ta vedette principale Thibaut.
Qui a pété un câble cette semaine. Enfin cette semaine, il y a deux semaines, je sais pas.
Qui a fait l'actualité Tom Cruise hein, pour avoir engueulé son staff sur Mission Impossible 7 pour
mais
ne
ouais,
pas avoir respecté les règles du Covid.
Des techniciens qui faisaient n'importe quoi visiblement. Il les a engueulés comme pas possible.
Ah, en fait, il le droit à les engueuler comme
écoute.
Ça. Bref, c'est une discussion à part entière. Mais deux de ces films sortent l'été prochain. Top Gun 2.
Et ouais.
Donc Maverick et Mission Impossible 7.
Ouais. Alors Top Gun 2, pour rappel, le premier date de 86.
Oui.
Et il avait toujours refusé de faire une suite. À l'époque, il voulait pas du tout faire une suite à ce film.
L'argument classique, je veux que l'histoire soit vraiment très bonne.
Ouais. Mais écoute, il s'y est quand même tenu pendant longtemps, alors que 86, il est quand même jeune acteur, star montante. Ça aurait été facile de faire une suite à ce moment-là. Ouais,
sauf que non, il a un autre argument, c'est « je veux conduire moi le jet ».
C'est peut-être ça. C'est sans doute ça. Et du coup, Tom revient pour une suite.
Et là, ils ont été voir AXA pour l'assurance. Ils ont dit « écoute, Tom, ça va être un peu compliqué ».
Écoute, je ne sais pas s'il a appris à piloter. Mais
Donc, en tout cas, c'est ça l'avantage de Top Gun 2. C'est des scènes dans des vrais jets, des trucs filmés du cinéma de papy. On embarque la caméra dans les jets.
Mais c'était déjà le cas pour le premier. Hein.
Ouais. Mais bon, maintenant, avec l'IMAX, tout le bordel.
Ils avaient eu l'appui de l'armée, parce que les États-Unis ils étaient en guerre, je ne sais plus, à ce moment-là. Bref, c'était le truc vraiment... C'était vraiment le film de propagande, un peu, à l'époque, oui, clairement. Et donc, quand tu as le soutien de l'armée et que tu peux faire des vraies prises de vue dans des avions, c'est quand même canon.
Voilà.
Et Mission Impossible 7, bah parce que Mission Impossible, qu'est-ce que je te dis,
si vous avez vu les images d'une moto qui vole au milieu des montagnes, bah voilà,
ouais,
pour ces raisons-là.
Tu vois toutes les cascades qu'il fait, bah oui, évidemment que je veux voir la suite.
C'est le film popcorn par excellence.
Moi, c'est une de mes sagas préférées. Enfin, bon, en tant que grand fan de Tom Cruise, ouais. Qu'est-ce que tu veux qu'il en soit autrement.
Mais il y a une autre saga que tu préfères, Thibaut.
Non.
En tout cas, c'est une saga qui a bercé notre enfance.
Oui.
Qui est de retour avec Tom Holland de nouveau.
Oui.
C'est Spider-Man 3. Je ne me rappelle plus le titre prévu.
Je sais
pour
pas.
Le film.
Il n'y a pas de titre pour l'instant.
Into
mais
tout de multiverse sans doute. Pourquoi? Parce que.
Oui, mais c'est pour ça que je l'ai mis dans. Parce que dans l'absolu, j'attends pas plus que ça, Spider-Man 3. Mais quand on voit tout ce qu'il y a eu ces derniers temps, tous les retours, là, Alfred Molina, Andrew Garfield. Sans doute Tobey Maguire, enfin bref, ils vont,
oui,
ça va être vraiment
bien.
Un multiverse, quoi.
Vous l'entendez bien, Andrew Garfield et Tobey Maguire de retour dans un film Spider-Man. Rien que ça.
C'est pour ça que c'est intriguant.
Rien que ça, ça vaut des tickets d'entrée. Hein.
Enfin,
le pitch marketing, il est bon là-dessus. Hein. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait pour le troisième? On va à Londres? Non, c'est déjà fait. Bah, attends, on va ramener Tobey. Oh putain. Donc oui.
Banco.
Ça, gros banco sur ce coup-là. Donc, il manque plus que Michael B. Jordan en Miles Morales un jour. Et puis là, c'est double banco.
Qui sait?
Donc voilà, Spider-Man 3, que va-t-il se passer? C'est la question du jour.
On s'en fiche un peu de ce qui va se passer.
Oui, mais bon, en tout cas, on a envie de le voir du coup.
Moi, je veux juste revoir Tobey Maguire en Spider-Man.
C'est ça, et Kirsten Dunst, qui ne sera pas là malheureusement.
Je sais pas. Alors, Emma Stone, je pense qu'elle n'est pas de retour.
Non.
Kirsten, je sais pas ce qu'ils ont dit.
Déjà, Andrew, je sais pas comment ils ont fait pour la voir avec tout ce qu'il a dit sur Sony depuis. Bref, donc du coup, autre film qui sortira en avril du coup, et qui était censé sortir
il y a pas de avril.
No Time to Die, le nouveau James Bond, dernier James Bond de Daniel Craig.
Ouais.
Ouais. Où on n'en sait pas trop, on a juste vu quelques images qui ont l'air assez badass. Mais de nouveau, les belles images de James Bond. Quantum of Solace, par exemple, il y avait des supers images dans la bande-annonce. Le film était à chier. Donc, ça ne veut rien dire.
Oui, le film était un peu moins bien quand même. Ouais.
Oui, oui.
Bah écoute, c'est James Bond. D'office, on doit le mettre dans la liste, quoi.
Exact.
Voilà. Avec un tournage de
Paris. Et puis, c'est le dernier de Daniel Craig, comme tu l'as dit. On verra bien où la saga nous emmènera après.
Mais bon, voilà, forcément, James Bond, curieux de voir ça.
Et on termine la liste des gros, gros films qui tâchent avec deux films. Le premier, c'est Eternals, film Marvel avec Chloé Zhao, Angelina
de
Jolie.
De Chloé Zhao, pardon.
Avec Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Kit Harington, blablabla. Gros, gros casting, ouais. Immense.
C'est le Marvel. Mais c'est le Marvel qui a l'air un peu intriguant, intéressant.
Oui.
Parce que. Les Éternels, c'est complètement autre chose de ce qui a été fait. Donc écoute, voilà, ça m'intrigue. Et puis c'est Chloé Zhao, elle vient quand même du cinéma on ne peut plus auteur estampillé Cannes Sundance.
Eh ben non, là donc, elle sera avec des écrans verts et Angelina Jolie pour voir ce que ça va donner.
Exactement, donc je suis quand même curieux de voir ce que ça vaut, Éternel.
Et dernier film de la liste, dernier film pas des moindres qui était censé sortir maintenant, Dune de Denis Villeneuve.
Le premier en tout cas.
Le premier des deux volets, puisqu'il s'agira de nouveau de diviser le film en deux, avec Timothée Chalamet, entre autres, hein, oui. Dave Bautista, etc. etc.
J'ai pas réécouté le podcast de l'année dernière avec nos films attendus de 2020, mais clairement
il était dedans. Oui, il était dedans, et si c'était pas le premier.
Il n'y a pas de raison qu'on le retire.
Exactement. Donc voilà, ça c'est pour les films qu'on a déjà vus, les films... qu'on attend très prochainement. Et voilà, ça c'est vraiment les films, allez, le haut du panier, en tout cas ceux qu'on connaît, ceux qu'on a déjà peut-être vu dans la presse ou autre. Maintenant on va commencer un peu à aller dans la sélection là, tu vois la bibliothèque Criterion là, tu vois, le truc un peu plus sélectif. On rentre dans la catégorie des grands réalisateurs, ça reste quand même accessible, hein. C'est des réalisateurs qu'on connaît tous et toutes. Premier réalisateur dont on va parler, c'est George Miller.
Exactement.
Que se passe-t-il, George Miller? Est-ce que c'est Mad Max in Space? Non.
Non, presque. Mais entre avant Furiosa, qui sera le spin-off de Mad Max Fury Road, il a réalisé un autre film qui s'appelle 3000 Years of Longing.
Oui, tout à fait, avec Idris Elba et Tilda Swinton.
On sait pas grand chose encore.
Il a fait revenir le chef-op de Mad Max Fury Road hein, pour ce film-ci. Qui était parti en retraite,
figure-toi. Tu es bien renseigné. Ouais. D'accord. Ouh.
Le mec qui était parti en retraite, il a dit tu reviens. Oh, je suis fatigué, Georges. Et voilà, mais il est là quand même pour ce film-ci. Donc il y aura des belles images, ça, c'est sûr.
Mais, oui, non, de toute façon.
Mais non, de quoi ça parle, ça, on n'en sait pas trop pour l'instant.
Non, mais bon, c'est George Miller et depuis qu'il est revenu avec Mad Max.
Voilà quoi. Mais il a dit que c'était l'anti-Mad Max, donc ça va être un film d'amour sans doute.
Oui, mais peu importe ce qu'il fait. Peu importe ce qu'il fait.
Voilà. Ça va être un film d'amour qui se passe non pas en voiture, mais en trottinette. Ensuite, autre film. Mais attention, ça c'est un film. Toi, t'adores ce réalisateur-là, c'est ton réalisateur fétiche. Et Steven Spielberg avec West Side Story.
Mais on va pas s'épancher 10 000 ans dessus, c'est un remake.
Voilà.
Avec Ansel Elgort.
Voilà.
Qui sera peut-être plus qu'Ansel entre temps. Mais bon, écoute, on verra. Hein. Avec l'actrice qui était dans deux promos aussi, donc on verra.
Exact. Ensuite,
Non pas un, mais deux films de Ridley Scott qui vont sortir à un mois d'intervalle, normalement.
Le mec aime bien les défis quand même. Hein. Changer d'acteur en dernière minute, faire deux films en un mois.
Ah, mais ça, c'est. Bon, après, le Covid a aidé. Hein.
Oui, il y a le planning,
forcément.
C'est une question de planning.
Parce que le tournage du premier film était déjà bien, bien entamé quand ils ont dû arrêter. C'est The Last Duel, qui est donc une histoire de duel entre le roi Charles VI et Jean de Carrouges. Voilà. Avec au casting Matt Damon, Adam Driver et Ben Affleck.
Alors là.
Et c'est donc prévu pour octobre 2021.
Et si je ne me trompe pas, c'est la première fois depuis Good Will Hunting que Ben Affleck et Matt Damon sont au casting d'un film ensemble.
Bonne question. C'est une très bonne question.
Mais je pense.
Il faudra vérifier.
Je pense.
Et le deuxième film de Ridley Scott, qui est prévu en novembre 2021, du coup, c'est Gucci, sur l'assassinat de Guccio Gucci, avec, bah tiens, encore Adam Driver,
Robert De Niro.
De Niro et Al Pacino. Il se fait plaisir, Ridley Scott. Là,
là il se dit, c'est la fin de ma carrière, j'y vais à fond la caisse. Là. on enchaîne tout le monde. Et Adam Driver qui signe deux films avec Ridley Scott, ça reste la coqueluche. Hein. Je me rappelle l'année passée, Adam Driver, en 2019, il était partout. Mais partout, partout, partout. Et d'ailleurs, à la fin, on avait un peu marre. Tu vois, il était à Cannes, à Venise, partout. Et là, à mon avis, cette année, il va revenir le coco. Hein. Il
sera... Ah ben là.
Et on n'a pas fini de parler de lui.
Deux dates pour. Enfin, deux films pour octobre et novembre, tu peux être sûr que. Venise, Toronto, Telluride.
Le mec qui va avoir un été chargé là. J'espère qu'il est parti en vacances.
Le festival va enchaîner. Hein.
Ça va être compliqué. Autre film, cette fois-ci, on a le retour de Bradley Cooper. Que se passe-t-il, Bradley? Ça fait un petit temps qu'on t'a pas vu depuis ton duo avec Lady Gaga. Film qui s'appelle Soggy Bottom.
D'un réalisateur qu'on n'a pas vu aussi depuis deux ans là maintenant, trois ans. Paul Thomas Anderson. Donc, excusez du peu, évidemment.
Oui, Daniel Day-Lewis.
C'est toujours un événement, ce film.
Oui, tout à fait.
Oui, il n'y a pas Daniel Day-Lewis. Et qui va donc parler d'un. C'est une histoire d'un ado dans un lycée qui est enfant acteur dans les années 70. Donc, c'est vrai qu'on en connaît quelques-uns des enfants acteurs. Hein. Il y en a eu un paquet. Oui. Ne comprends-tu pas?
Oui, si, j'ai compris.
Bah, des enfants qui étaient acteurs et.
Macaulay Culkin,
comme Macaulay Culkin, comme Elijah Wood, comme Jay Gyllenhaal, qui a commencé très jeune aussi. Voilà, tous ces gens-là. Voilà, et donc ici, dans les années 70, les années 70, par Paul Thomas Anderson, avec Bradley Cooper, tu l'as dit, avec Ben Safdie et Cooper Hoffman, je suppose que c'est le jeune garçon, on verra bien.
On verra ça, on suit ça de près en tout cas. Et dernier film, pas des moindres dans la saga des grands réalisateurs, c'est Killers of the Flower Moon, le nouveau Martin Scorsese avec DiCaprio et De Niro. Décidément, De Niro
c'est
aussi.
Deux acteurs fétiches, quoi. Pour la première fois ensemble chez Scorsese. Film Apple TV+, pour rappel, hein, qui va donc lâcher encore 200 millions ou je sais pas combien, oui. Mais beaucoup beaucoup d'argent parce que Marty il a besoin de sous.
Il aime bien faire chauffer la carte Visa, hein, Marty, donc
ouais. Et c'est sans doute prévu plutôt pour la fin de l'année. Et ça a parlé de meurtre dans la tribu Osage dans les années 20.
C'est voilà. une enquête western avec des meurtres et tout dans une tribu. Ça peut être pas mal.
Ça peut être pas mal.
Ça peut être même très bien.
Ouais.
Donc voilà.
À voir si ça sortira dans quelques salles. Mais chez nous en Belgique, Apple TV Plus a sorti On the Rocks de Sofia Coppola dans nos salles cette année. Donc je pense que Marty. Ça devrait sortir au cinéma aussi, quoi.
Limité ou autre palace, bref, voilà. Il va trouver une solution.
Ça en France, ça par contre, vous vous débrouillerez, mais il y a sûrement bien un distributeur qui va faire des petites avant-premières et puis pas de sortie.
Penses-tu qu'un de ces films-là de grands réalisateurs se retrouvera à Cannes parmi ces films-là ou
Alors, ceux-là, je les ai mis à mon avis, certains, peut-être Venise.
Ridley Scott, par exemple. Oui.
Genre, ouais, Last Duel, par exemple, ça pourrait être à Venise, Toronto. Mais les autres, je pense pas.
Non plus, je pense pas.
Scorsese, c'est trop tard. S'il sort en fin d'année, les autres, c'est.
On va se taper un. Oui, en effet, tu as raison.
Donc là, comme ça, le seul que je vois, c'est le premier de Ridley Scott. Éventuellement, le deuxième, un Gucci, novembre, c'est pas encore trop tard pour ces films-là.
Le Gucci, quoi.
Mais écoute, ouais. On verra.
Tout à fait. Mais écoute, on vous tiendra de façon informée dans Cinécast, c'est aussi ça le but. On vacille dans le cinéma de genre, cinéma que tu affectionnes tout particulièrement, Thibaut.
Ouais.
De profession, notamment. Le premier film, c'est Antlers.
De Scott Cooper.
De Scott Cooper, tout à fait. Film d'horreur.
Et ouais.
Avec Jesse Plemons et dans un film d'horreur, c'est bon ça.
Parce et Kerry Russell.
S'il y a bien un mec qui fait peur, c'est Jesse Plemons.
Donc, écoute, le film devait sortir en mars de cette année. Bah voilà, un an plus tard,
il va sortir. 12 mois de plus.
Exactement. J'adore ce que fait tout ce que fait Scott Cooper, ou presque. Donc, Antler, c'est une évidence, quoi. Je peux pas ne pas attendre ce film.
C'est dans la liste. Il y a The Green Knight aussi.
De David Lowery.
Aussi, c'est une histoire de chevalier, de sœur, de trucs comme ça.
Eh oui. Bah oui, Sœur Gauvin, le chevalier vert. Film qui devait faire sa première mondiale à South by Southwest cette année, donc en mars dernier, et qui est redaté là maintenant à juillet 2021, avec au casting Dev Patel, Alicia Vikander et Carrie Barry Keoghan. C'est quand même pas
dégueu. C'est pas un film Netflix
Non, c'est A24.
Oulala. Attention, ça s'est caché à hipster à crever.
Et oui.
On continue avec The Northman de Robert Eggers. Robert Eggers, c'est monsieur de Lighthouse.
The Lighthouse et The Witch.
Exactement.
Donc, deux films, deux succès, en tout cas critiques.
Étoile montante, les amis.
Grosse étoile montante du cinéma de genre. Avec Alexander Skarsgård, ça c'est le premier. Mais alors la deuxième personne, on va en reparler dans ce film-ci et dans le film d'après.
Oui.
C'est l'actrice des films de genre pour l'instant. Hein.
Et
c'est
la star de Netflix pour l'instant.
Et la star de Netflix pour l'instant, c'est Anya Taylor-Joy, donc qui était dans The Queen's Gambit sur Netflix, qu'on a vu dans Les Nouveaux Mutants, dans Split. Donc déjà deux films de genre, et qu'on retrouvera dans le film.
Elle est un peu de vicieuse comme ça, tu vois. Donc ça lui va très bien pour faire un truc.
Elle peut, ouais. Et qu'on retrouvera dans Last Night in Soho, le film d'Edgar Wright, dont on va parler juste après. Et donc dans The Northman, il y aura aussi Willem Dafoe, Ethan Hawke, Klaas Bank, Bjork. Et Kate Dickey. Ouais,
vous avez bien lu.
Donc franchement, c'est pas dégueulasse. Et ça a raconté l'histoire d'un prince nordique au Xe siècle qui va chercher à se venger. Voilà. Il n'y a pas de date.
Il aime bien les trucs Xe siècle et tout. Il aime bien les vieux bazar.
Bien sûr, comme The Witch. Ouais. Il n'y a pas de date, mais le tournage est fini. On est en décembre, là. Enfin, en janvier.
Et là, c'est la belle brochette à Cannes. Ouais,
ah, ça sent Cannes. Hein.
Ça pue Cannes, mais tant mieux pour nous. Autre film, et beaucoup de gens attendent celui-là, Edgar Wright, notre ami britannique, qui là va nous sortir Last Night in Soho, ce fameux film où une fille est capable d'aller dans les années 60 avec Tobias Mackenzie.
Thomasine Mackenzie.
Thomasine, c'est pas Tobias?
Oui, non, c'est Thomasine.
Ok, bah Tobias, c'est le mec de Netflix.
Oui,
The Crown. Oui, c'est pas
oui, tu confonds avec Tobias. Oui.
Je suis encore dans The Crown. Donc Thomasine Mackenzie, à la Taylor Joy, tu viens de le dire, et Matt Smith, qui était Docteur Who, je pense, à un moment donné.
Oui, exactement.
Voilà, donc ça, c'est film britannique. Space, Edgar Wright, quoi. Voilà.
Ouais.
Des trucs particuliers, mais en tout cas, ça donne envie. Et par la scénariste de 1917.
Prévu pour fin avril.
Exactement. Ensuite.
On a hâte.
On enchaîne, ça va vite. Nightmare Alley, c'est un film de
Guillermo del Toro.
Rien que ça.
Dont le tournage vient de se terminer, là, il y a quelques jours.
C'est un remake. Oui, tout à fait, du film de 1947. C'est une histoire du coup d'arnaque avec Bradley Cooper encore, Kate Blanchett, Toni Collette, Rooney Mara, Willem Dafoe. Bref, un casting des noms qu'on a entendu un peu partout dans cette liste pour l'instant.
Ah, il y en a, ils tournent pas mal. Hein.
Mais Guillermo del Toro, alors là, les amis, il n'y a pas plus manqué que lui, hein, après The Shape of Water et tout. Là, on attend son prochain film avec impatience, surtout s'il s'agit d'un film de genre. Toujours le bienvenu.
Et comme tous les grands films qui visent un peu qui ont certaines ambitions, il va sortir à l'automne. Hein?
Oui,
voilà.
Statuette, où es-tu?
Exactement. Voilà.
Et ensuite, avant-dernier film, on parle de Julia Ducournau, hein,
oui,
qui nous a fait grave il y a quelques années. Maintenant, elle revient avec Titan, un autre film du coup de genre qui parle de retrouvailles après une disparition qui a eu lieu il y a 10 ans.
Exactement.
Sauf qu'il va y avoir des meurtres à nouveau qui vont ressurgir de nulle part. C'est un peu un épisode de fait d'entrée accusée.
C'est ça.
Avec Vincent Lindon.
Écoute, c'est surprenant de voir Vincent Lindon chez Julia Ducournau dans un film de genre.
Ça peut être pas mal. Hein.
Mais ça peut être vraiment bien, ouais.
Son fond de truc social.
Parce qu'on sait que les thrillers, il peut, hein, dans, je sais pas si tu te souviens de Pour Elle, le film avec ouais. Diane Kruger, là, il était quand même canon. Donc écoute, je suis curieux de voir ça. Vraiment.
Tout à fait.
Très curieux.
Et dernier film de la catégorie cinéma de genre, on a Rebel Ridge, film de Jérémy Saulnier avec John Boyega dans le rôle principal. Après oui. Star Wars, il fallait bien qu'il fasse quelque chose. Donc maintenant, on va pouvoir le voir du coup
ouais.
dans ce film sur les injustices systémiques.
Oui.
Forcément. Avec John Boyega.
Ouais. Et puis ben, Jérémy Saulnier, gros réalisateur de cinéma de genre que j'aime beaucoup. Donc voilà, évidemment, je suis très curieux de voir ce qu'il nous fait.
Ensuite, maintenant, on parle des films d'auteur. Alors, bon, honnêtement.
Alors, j'ai fait une séparation entre les films d'auteur et ceux que je vois en festival. Donc, c'est les deux catégories qui restent.
Ouais.
Ce sont des films d'auteur que je vois pas spécialement être à Cannes ou à Venise. Ou voilà.
Même
ou,
si le film de Julia Ducournau, Titane, à mon avis, Venise, Cannes.
Oui, oui, il y a des films dont on a parlé parfois à d'autres moments qui pourraient être en festival, mais je me suis dit, bon, allez, c'est mieux de les mettre dans cette catégorie-là. Voilà.
Oui, tout à fait. Là, on rentre du coup dans les films d'auteurs, des réalisateurs, réalisatrices qui se sont fait remarquer récemment, avec Olivia Wilde
ben
en
oui.
premier.
Elle a fait le magnifique Booksmart.
Oui.
Et là, voilà, donc Don't Worry Darling, ça va être son deuxième film en tant que réalisatrice, qui va parler d'une histoire de famille dans les années 50 avec Florence Pugh et Chris Pine. C'est le moins bon des Chris, mais écoute, on va faire avec. Hein.
Et si je ne me trompe pas, c'était censé avoir quelqu'un d'autre, mais qui s'est fait virer du casting. Je crois que c'était Shia, non ?
Les gens qui...
Oui,
Shia s'est fait virer. Enfin, non. Enfin, Shia est parti, en tout cas. Je ne sais
oui,
pas s'il s'est fait virer ou pas.
Il n'a pas fait long feu sur ce tournage-là.
Oui, et je pense que ce n'était pas le seul. Hein. C'était deux. Je me demande si l'actrice ne devait
oui,
pas...
Oui, c'était un duo. Oui, c'était un deux. Ouais. Bref. Autre film dans la catégorie film d'auteur, on aurait presque pu le mettre dans les grands réalisateurs parce que maintenant, il commence vraiment à monter.
Oui,
à chaque
mais...
fois qu'il vient, tout le monde est là, Oscar buzz. Il s'agit de Damien Chazelle,
exactement.
Monsieur La La Land, Monsieur Whiplash et Monsieur Babylone dans ce cas-ci.
Oui, Babylone, ça va être son Mank, ça va être son Once Upon a Time
J'espère
in Hollywood.
Que ce sera un peu plus dynamique.
Mais voilà,
d'ailleurs, Mank n'était pas dans ton top 10.
C'est vrai. Ah bah tiens.
Je viens de le remarquer, Thibaut.
Ouais, mais il était dans mon top 20.
Ah bah voilà.
Mais je pense.
Tout
à
fait.
Me fais douter maintenant, mais c'est pas le moment. Non, il était bien dans mon top 20.
D'accord.
Mais oui, écoute, ça va être la lettre, visiblement, la lettre d'amour à Hollywood de Damien Chazelle, avec
Brad Pitt.
Ben, comme Once Upon a Time in Hollywood,
Brad
Pitt et Margot Robbie.
Et par contre, il y a Tobey Maguire qui remplace Léo.
Tobey Maguire, ça c'est fabuleux. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait depuis 10 ans ? Plus rien. Je sais pas pourquoi il a disparu de la circulation.
Pote, non, c'est un grand pote à Léo et ils font souvent des jokers ensemble.
Je sais.
Voilà, c'est ce qu'il fait.
Non, mais oui, je sais bien qu'ils sont des amis d'enfance. Voilà, ils ont fait plein de trucs ensemble. Mais...
Il a joué vite dans Gatsby pour avoir 2-3 argent de poche pendant 2-3 ans.
Globalement, il fait plus rien. Je suis un peu triste. Donc voilà. Après, bon, le film, c'est pas sûr qu'il sorte en 2021. C'est prévu pour la fin de l'année, mais potentiellement, ça veut dire que... il sera plutôt en 2022, donc on verra bien. Mais voilà, Babylone de Damien Chazelle, évidemment, c'est dans nos films les plus attendus de l'année.
Exactement. Quel style de film ça va être ? Ça, on ne sait pas encore trop, mais voilà, ça risque d'être sans doute romantique, féerique, bref, Damien Chazelle. Ensuite, Decision to Leave, c'est un film policier de femmes qu'on la retrouve dans la montagne. Donc ça,
exactement.
C'est quoi ça ?
C'est un film de Park Chan-wook. Oui, pardon, j'ai mis l'acronyme, mais tu
sais pas... PCM, PricewaterhouseCoopers, c'est quoi ça ?
Je rigole. Non, mais écoute, Park Chan-wook, évidemment.
Oui.
Je pense que c'est le seul réalisateur coréen que j'ai mis dans la liste là, mais en même temps je t'avoue que je connais pas tous les, j'ai pas vu tous les projets de films coréens de cette année, donc voilà, mais évidemment Park Chan-wook, que dire de plus, hein,
que dire de plus,
une évidence.
Autre film de Taika Waititi, Next Goal Wins. Il a dit lui-même, c'était un peu le film qui lui a fait du bien après Jojo Rabbit. Où là, il s'agit d'une équipe de foot des îles Samoa, qui sont du coup pas les gagnants de la Ligue des Champions, hein, vous l'aurez compris.
Non.
Et qui sont coachés par un coach flamand, joué par Michael Fassbender.
Un coach hollandais.
Hollandais, excusez-moi, hollandais.
Et dis pas un flamand qu'il est hollandais.
Avec les cheveux blonds et tout ce qu'il faut.
Ouais.
Et donc, joué par Michael Fassbender, qui va faire son Ronald Koeman. ça va être pas mal, écoutez. Bon, moi, j'aime bien le foot.
Bien.
Des films de foot, il n'y en a pas tous les jours.
Non.
Et des films d'underdog, c'est toujours sympa, les films d'underdog. Avec l'humour de Taika Waititi, ça peut donner quelque chose de super sympa.
À voir si Dwayne Johnson fait une apparition, parce que c'est quand même sa patrie, quoi, Samoa.
Ah, tu t'imagines. Un gardien de but,
non, je pense.
Ah,
il n'y a rien qui passe.
Non, il peut rien faire.
Si, parce qu'à mon avis, il n'a pas une...
une détente.
Il n'a pas une détente de fou.
C'est
hein,
pas
pense.
Un chat dans la cage.
Ouais, c'est plutôt un... C'est un tank, c'est oui. Vraiment ça. C'est pas une Ferrari, quoi.
Non, non, bon, soit. Ensuite, dernier film de la catégorie film d'auteur, un film de Andrew Dominik avec Ana de Armas, La Brillante, L'Étincelante, La Belle, qu'est-ce que tu veux, qui joue Marilyn Monroe. Et le film oui. S'appelle Blonde. Alors là, c'est Ana de Armas en Marilyn Monroe, why not?
Mais écoute, voilà. Je n'ai rien à ajouter de plus, si ce n'est Ana de Armas, épouse-moi. Mais
non, c'est fini, mais elle est avec quelqu'un là maintenant.
Ouais, mais moi aussi, I'm fucking Ben Affleck. Hein.
oui.
J'ai revu les vidéos il n'y a pas longtemps, c'est très très drôle.
Oui, c'est très drôle.
Allez voir sur YouTube I'm fucking Matt Damon et I'm fucking Ben Affleck, oui. Si vous ne connaissez pas. Mais écoute, Andrew Dominik, réalisateur assez intéressant, souvent sous-estimé, je trouve. Là, voilà, un biopic, a priori, sur Marilyn Monroe avec Ana de Armas. Mais pourquoi pas? C'est pas le projet où, de base, je me dis, ah ouais, ouais, c'est une évidence, bien sûr, ça va être super bien. Mais ça m'intrigue assez. Et je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner. Pour moi, ça peut être réussi.
La question, c'est qu'elle va faire tomber son accent.
son accent cubain.
Oui, parce qu'elle a un petit accent. Ensuite.
Cubain, hein, je ne sais pas. Cubaine, portoricaine, je ne sais plus.
Amérique latine, voilà, c'est ce que je veux dire.
Je crois que c'est cubain.
Un petit accent. Ensuite, les films qu'on va retrouver dans les festivals de films. Je crois que c'est plus ou moins la même liste qu'on avait fait l'année passée pour les festivals. Enfin, en tout cas, cette liste-là, on en avait déjà parlé.
Pour les deux premiers, oui.
Oui, voilà, Benedetta de Paul Verhoeven avec Virginie Efira, on l'attend depuis Mathusalem.
Depuis 14 ans.
Donc voilà, on va pas revenir là-dessus.
Non, mais il fallait le citer.
Bien sûr, Annette, la comédie musicale de Léo Carax avec Marion Cotillard, et Adam Driver.
Encore lui. Oui, mais bon, en même temps, ils ont tourné le film il y a un an et demi. Là,
il est abonné à Cannes.
Il y a un an, plus ou moins. Parce qu'ils étaient encore à Bruxelles.
Non, on va être lassé de le voir à Cannes. Hein, parce que quand tu l'as vu dans les escaliers et tout, à chaque fois, on va être là. Adam, salut, ça va? Bien ou quoi? Alors, il est chaque année.
On va se boire à Godet après?
On se boire à Godet à 25 euros la bière. Donc, ça, c'est pour Adam Driver à Cannes.
Oui, donc ça, c'est, clairement, c'est Annette de Léo Carax et Benedetta de Paul Verhoeven. Ce sont deux films, on sait qu'ils seront à Cannes. Mm. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas le label 2020. C'est parce qu'ils ont entendu l'ambition de sortir et donc d'être présents au festival cette année.
Ouais, voilà. Ils ont mis les films au frigo pendant un an et donc ils vont revenir du coup pour la prochaine croisette en espérant qu'elle soit en physique.
Oui.
S'il vous plaît.
Mais a priori, ce serait plutôt juin, juillet. Hein. Ils ont déjà un peu repoussé.
Ouais, ils ont poussé.
Non, ils ont donné déjà des dates pour le mois de mai, mais ils ont prévu des dates secours à deux autres moments, en juin et en juillet, je pense, parce que Berlin est déjà repoussé au mois de mars.
Ouais.
En virtuel et en présentiel en juin.
My God.
Mais juste pour les locaux, hein, c'est pas un gros truc.
On va voir, on va. Puis sans doute que l'accès au festival sera très limité.
Voilà.
Certaines médias ne pourront pas rentrer. Peut-être nous.
Non, mais le Berlin physique, ça va vraiment être très.
Oui, Berlin, oui.
Très pour les locaux. Et oui, Cannes, on verra bien.
Ensuite, Triangle of Sadness de Ruben Östlund, pardon.
Qui avait eu la Palme d'Or pour The Square il y a quelques années.
Oui. Donc c'est de nouveau quelqu'un qui aime bien explorer les mondes artistiques, les mondes un peu particuliers. Et là, on rentre dans le monde de la mode avec qui? Zoolander? Non, avec Woody Harrelson dans le monde de la mode. Mais que se passe-t-il?
Et écoute, je vais te citer ce que Ruben Östlund m'a dit il y a 3 ans, parce que j'ai eu l'occasion de l'interviewer pour The Square. Et il savait déjà très bien que ce film-ci serait son prochain projet. Et donc, quand il m'a dit un peu de quoi ça parlait, il m'a dit ceci: le personnage principal sera un mannequin homme d'environ 28 ans. Bon, ça correspond pas trop à Woody Harrelson, ça. Donc, je
48,
sais pas encore.
Pas là, ouais.
Il est au sommet de sa carrière. S'il n'était pas mannequin, il serait probablement mécanicien. Il est le visage d'une grosse marque de mode, mais il a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il commence à perdre ses cheveux.
C'est moi, ça.
Ouais. Et que ses jours sont donc comptés dans ce business. Le second, c'est que. Quand quelqu'un s'est connecté à une marque, personne d'autre ne veut l'engager parce que tout le monde l'associera à l'autre marque.
Un peu comme nos amis, ceux qui font les pubs pour J'adore et tout, là, chaque année. Et on les voit d'ailleurs maintenant, hein, dans les arrêts de tram.
Mais il a un agent super qui est très prévenant. Pour tenter de le refaçonner, l'agent suggère qu'il se trouve une petite amie connue. À partir de ce moment-là, il ne sera plus uniquement le visage de telle marque, mais aussi le petit ami de blablabla. Je veux juste m'intéresser à la beauté en tant que valeur économique et la façon avec laquelle les gens gèrent cela.
Ok.
C'est plutôt intriguant.
Méta sur l'image de marque, patata, le physique, ce qu'on met en avant.
Et quand tu vois le type de comédie un peu cynique que The Square était... Voilà, moi, Ruben Östlund, dans le milieu de la mode, clairement, ça me botte. Et c'est un type qui est un peu barré. Hein. Quand il a fait la promo de Square, sans rire, hein, il se promenait avec sa palme d'or, quoi. Et donc, j'avais demandé pour faire une photo de lui avec la palme, tu sais, pour illustrer mon article. Il m'a dit, viens. Et donc, j'ai fait une photo de moi avec lui, avec la palme d'or au milieu.
Pourquoi il se promenait avec sa palme d'or?
Bah, je sais pas, qu'il avait gagné, quoi. C'est un personnage.
Non, mais c'est peut-être justement parce qu'il dénonce un peu l'hypocrisie de, tu vois, les prix, les trucs comme ça, l'espèce de soufflet qu'on en fait parfois. Et donc, peut-être que justement, être avec sa palme partout, c'était pour montrer justement l'espèce de. Le côté un peu futile de la chose.
Oui,
quoi, tu
oui. Bah, The Square était un peu critique envers le monde de l'art déjà. Donc,
exact.
Voilà, tout cela n'est pas anodin en tout cas, c'est sûr.
Exactement. Ensuite, il y a Terrence Malick.
Et oui.
Un minimum quand même. Hein. The Way of the Wind, film sur la vie de Jésus.
Oui, qui est le nouveau titre. Hein. Vous avez peut-être entendu parler de ce projet sous un autre titre, mais oui. Voilà, ceci est le bon, a priori.
Avec Matthias Schoenaerts en partie, Mathieu Kassovitz aussi.
Ah, le casting est assez délirant. Donc on a Gezar Horig qui était. L'acteur principal du fils de Saul, il y a 6 ans, qui incarnera donc Jésus.
Résonce.
Et puis on a Matthias Schoenaerts, Joseph Fiennes, Ben Kingsley et Mathieu Kassovitz. Voilà.
Je crois qu'il a envie de tourner avec lui un petit peu.
Mais il en parle un peu là dans sa vidéo Combini.
Combini Video Store.
Video Store. Ouais. Il parle un petit peu brièvement du tournage avec Terrence Malick. Apparemment, c'est assez particulier et en tant qu'acteur, c'est pas évident. Voilà.
Écoute. On va découvrir ça sans doute à Cannes, tu as raison.
Ouais. Et on touche déjà à la fin.
On touche à la fin de la liste, oui, tout à fait. Avec maintenant les 4 derniers films, on a Petite Maman de Céline Sciamma, également réalisatrice qui plaît beaucoup aux Français, hein, qui est très mise en avant.
Français.
Pas qu'en avant. Pas qu'aux Français, pardon, avec Portrait de la jeune fille en feu, c'est son dernier film. Et là, dans ce cas-ci, c'est un film sur la famille et l'enfance, décidément des sujets qui lui sont chers.
Ouais.
Toujours au tournage pour l'instant. Donc
exactement.
On espère fin 2021. Mais,
oui, ce sera pas Cannes. À mon avis, ce sera plutôt Venise.
Ah ouais?
Ouais.
Oui,
si festival, parce que là je l'ai mis dans les festivals, je pense quand même que ce sera festival. Fin 2021, c'est jouable. C'est jouable, on verra bien.
Ensuite, on a Armageddon Time, un film de James Gray. Alors le titre, what the fuck. Un film un peu coming of age dans le Queens dans les années 80, avec Oscar Isaac, Robert...
Et oui, encore.
Mais mec, tu veux pas jouer Matt Grimpa encore, hein? Robert De Niro et Anna Taoué.
On tape sur De Niro parce qu'il fait que des daubes globalement. Réjouissons-nous.
Waouh.
Qui tourne avec mais Scorsese, wow. Avec James Gray, etc. Non.
Mais non, mais c'est génial. C'est dingue, quoi. Fin de carrière qu'il est en train de se taper là. C'est.
Ah bah ouais. Quand
même. Il y avait Le Stagiaire il y a quelques années, mais
oui.
C'est un bon film Le Stagiaire.
Et de ces films moins bien, oui, c'est.
Oui, ça va encore, oui. Donc voilà, on attend juste la suite de Mes parents et moi avec Ben Stiller, mais je sais pas ce qu'il pourrait faire.
Non.
Ok.
Mais bon, intriguant.
Très intriguant.
Automne, donc plutôt Venise-Toronto.
Oui, tout à fait. En plus, souvent quand c'est casting international, c'est souvent Venise quand même. Et The Tragedy of Macbeth de Joel Cohen. Sans Ethan, qu'est-ce qui s'est passé? La rupture?
Je ne sais pas.
On ne s'entend
que
plus.
Ethan prend peut-être des vacances.
Oui, mais là, c'est vraiment l'adaptation de la pièce de Shakespeare. Donc
oui.
Voilà, c'est un peu plus béton, mais avec Denzel Washington qui est beaucoup hein, joué des films de théâtre au cinéma. Il le fait souvent. Hein.
Oui.
Donc voilà, Frances McDormand aussi. Et
évidemment, qui est l'épouse de Joël.
Exact, donc du coup...
Et Brendan Gleeson, joli casting, donc oui. Intriguant. Et
on termine.
Last but not least, Jacques Audiard, qui est de retour avec Les Olympiades. Film qui va parler d'une amitié entre une ado et une femme. On n'en sait pas beaucoup plus, si ce n'est qu'il y a Noémie Merland dedans. Voilà, donc actrice qui enchaîne...
qui monte aussi.
Des jolis projets depuis quelques années maintenant.
Qui monte aussi.
Et bah alors, je sais pas du tout où en est le film, mais s'il est prêt, ce sera Cannes.
Oui.
vu que c'est un film français, donc ce serait plutôt Cannes, parce que son dernier, Les Frères Sisters, c'était à Venise. Hein, mais là, c'était casting international, qui visait autre chose aussi, Oscar, ouais, etc. Ouais. Donc forcément, autre stratégie, mais voilà. Globalement, je pense que là, on a passé globalement... pas tout en revue, mais pas mal de choses.
Ah oui, là, on s'est lâché quand même. On a,
ouais, on s'est fait plaisir.
On n'a pas loupé beaucoup de films, je pense, en tout cas sur les gros, ouais. Gros films importants. Il y aura des surprises.
Si, il y a Adam McKay, on n'en a
bien
pas
sûr.
Parlé.
Oh oui, c'est vrai, j'ai vu ça.
Il ouais, y a plein de trucs, mais bon, on ne peut pas parler de tout.
Et hein. Puis, il y aura des surprises. C'est ça qu'on espère aussi.
Oui, hein, aussi.
C'est un petit film comme ça qui sort de nulle part. On dira, ah, c'est génial ce film-là. Donc... ou un documentaire, d'ailleurs. Hein. C'était un peu l'année documentaire. Et
ah,
on espère...
là, aujourd'hui, tout à l'heure, Peter Jackson a balancé des images de son docu sur les Beatles,
Beatles
qu'il
ouais.
Est en train de faire. Je sais que Scorsese a aussi un docu... c'est pas sur les Stones? Non, pas sur les Stones, je sais plus. Bref, des docus, il y en a quelques-uns aussi qui sont en chemin. Donc voilà, globalement, quand je lis tout ça, quand j'entends tout ça, on dit que 2021, ça va quand même être une putain de bonne année ciné, quoi.
Ça donne envie. Hein. Tout le monde dit le cinéma, c'est fini, le streaming, etc. Mais non, il y a encore plein de films qui arrivent. Il y a de quoi se faire plaisir et on sera là.
Là, on s'est limité. Un moment, je me suis dit, bon, on va faire une liste de 20 films et puis. Putain.
Idée de base, c'était 10 films, hein, mais.
C'est pas 50. Possible, quoi. Ouais, non, voilà. Là, vraiment, on vous a passé en revue un gros morceau de 2021 et ça va être une bonne année.
Ça va être une bonne année. En tout cas, merci beaucoup d'écouter Cinécast et soyez fidèles au rendez-vous.
Oui, et vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de streaming possibles et imaginables, YouTube, Apple, Spotify.
Petit plugin à 45 minutes pour si vous nous écoutez encore, c'est que vous êtes encore là. En tout cas, merci beaucoup et à très bientôt.
À bientôt.